n'ont jamais revendiqué quelque chose qu'ils n'ont pas commis. Moi, je prends leur revendication très au sérieux. Et le choix des mots est important. Il le qualifie de soldat du califat, c'est qu'il y a un lien, aussi distendu soit-il. Et si on regarde du côté des autorités françaises, ils ont très vite choisi de donner l'affaire au parquet antiterroriste. Le procureur a choisi de ne pas donner tous les éléments qu'il a en sa possession, parce que ce n'est que le début de l'enquête, ce qui est tout à fait normal. Après, quelle sera la suite, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'affaire, elle est prise comme une affaire terroriste et pas qu'une affaire de droit commun par l'État français. Et de surcroît, c'est revendiqué par les premiers concernés. Donc moi, je ne vois pas pourquoi il y aurait une place au doute.
Pourquoi l'État islamique ne revendique cette attaque que maintenant ?
Il y a deux pistes pour moi. C'est que ce tueur, il était en relation avec quelqu'un qui est dans les rangs de l'État islamique. Donc relation, ça veut dire, ça peut être très bien une relation distendue, immatérielle, via les réseaux sociaux. Et du moment où il est passé à l'acte, cette personne qui lui fait une sorte de garant a dû revoir son hiérarchie pour leur dire, voilà, ça c'est fait au nom de l'État islamique, et pour voir après si les instances de l'État islamique vont revendiquer en bonne et due forme comme ils l'ont fait, ou sinon, est-ce qu'ils vont juste saluer l'opération comme s'ils l'ont déjà fait à d'autres occasions, entre l'attaque d'Orlando et du Texas, comme l'attaque qui a eu lieu en Australie. Maintenant, il y a une deuxième piste, c'est qu'ils sont passés maîtres, si je puis dire, en communication. Donc, en plus d'avoir tapé le 14 juillet, ils ont peut-être choisi de revendiquer au premier jour de deuil décrété en France. Ça aussi, c'est à prendre en considération.
Bernard Cazeneuve parle d'un homme probablement radicalisé depuis peu. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense qu'il est temps de prendre en considération ce que les djihadistes prêchent depuis 50 ans. Pour eux, une personne soit un ancien criminel, un mauvais pratiquant, du moment où ils décident de quitter cette vie-là, donc ils estiment malsaine, et de rentrer dans le sentier du djihad et de mourir même en martyr au nom de cette cause, tous ces péchés passés sont pardonnés. Donc il y a beaucoup de gens qui rejoignent les rangs djihadistes pour cette raison aussi. Donc, à chaque fois on s'étonne, ah oui, c'est pas pratiquant, ah oui, c'est complètement hors sujet. Ce qui compte, c'est est-ce qu'il l'a fait au nom d'un groupe ou pas ? Est-ce que c'est juste un acte de folie ou pas ? C'est ça qui compte, en fin de compte. Et à chaque fois, ils choisissent des cibles qui sont proches d'eux. Même dans la criminologie, c'est très humain, si on peut qualifier ça comme ça. Ça veut dire l'attaquant d'Orlando, il avait une haine contre la communauté gay, il a attaqué un nightclub gay, le tueur de Magnanville, il a choisi de tuer un policier et sa femme, mais il les connaissait d'avant. Et là, aujourd'hui, à Nice, donc il a choisi de frapper dans la ville où il résidait. Mais au nom de quoi ? Au nom toujours de cet État islamique.
Comment est-ce qu'il a pu se radicaliser ?
On ne sait pas, parce que personne n'est dans sa tête. Il aurait pu avoir ce cheminement dans sa tête depuis un moment sans que personne ne le sache. Il faut sortir des caricatures que chaque fois qu'une personne se radicalise, ça y est, c'est la barbe et la djellaba afghane. Et non. Et c'est ça qui rend les choses très, 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 très difficiles. Parce que bon, il est camionneur, chauffeur de camion. Donc comment l'empêcher d'utiliser ce camion à des fins terroristes ? Même le tueur de Magnanville, il était fiché S, son téléphone était sous surveillance, il n'a pas acheté d'armes, il n'a rien fait qui justifiait une incarcération ou une garde à vue. Il a juste pris un couteau, il a été tué deux policiers pas loin de chez lui. Voilà, personne n'est dans leur tête, c'est ça aussi qu'il faut essayer de comprendre. Donc c'est vraiment très difficile à gérer.
Est-ce qu'on est quand même face à une évolution du profil des personnes qui deviennent terroristes ?
Il n'y a pas de profil. Ça fait des années que je le dis, il n'y a pas de profil. Ça ratisse large. Ça veut dire que c'est un djihad de masse aujourd'hui. Ceux qui font ce choix sont les bienvenus dans les rangs des djihadistes criminels, anciens criminels, petits délinquants, machin. Mais dans d'autres pays, c'est pas du tout ça. Au Bangladesh, il y a encore quelques semaines, il y a eu un attentat meurtrier. Et les tueurs étaient des étudiants d'université de la haute classe moyenne bengali. C'est pas du tout des délinquants. Faut pas rester focalisé sur ce qui se passe ici, parce que c'est un phénomène global et que les profils n'existent pas.
Est-ce que ce mode opératoire, c'est-à-dire un individu seul avec un camion, montre que l'État islamique est en difficulté et n'a plus les moyens d'organiser des attaques coordonnées comme celle du Bataclan ?
C'est deux choses différentes. Ça, c'est un mode opératoire, rien de plus. Il n'y a pas de... Eux, s'ils arrivent à inciter quelqu'un à écraser les gens avec un camion, ça les arrange. Ça ne veut pas dire que de l'autre côté, ils ne sont pas en train d'essayer de faire quelque chose de beaucoup plus organisé comme le 13 novembre. Ça ne coûte rien d'inciter les gens. Et ce mode opératoire, donc écraser les gens avec des voitures, c'est Al-Qaïda appelé à ce genre d'attaque dès 2010. Et ça, c'est un truc qu'on voit d'une manière assez récurrente et fréquente. Donc ça, c'est un moyen. C'est pas du tout. Il n'y a pas de signification mystique derrière le fait d'utiliser une voiture ou pas. C'est juste, ça nous démontre que c'est très facile aujourd'hui de passer à l'acte avec ce genre de mode opératoire. C'est-à-dire sans être obligé d'acheter des armes, de fabriquer des explosifs, ce qui rend les choses, encore une fois, très difficiles à gérer.